Je suis dans la joie, dit le psalmiste, quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel et avec nos frères et sœurs pour chanter des louanges à notre Sauveur, pour pousser des actions de grâce vers lui, pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est merveilleux. L'Écriture nous dit dans 2 Timothée 3, verset 16 à 17, c'est un texte que vous connaissez tous, mais on ne peut pas dire ce texte assez. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin, pour être enseignés, pour être instruits dans la parole, pour être corrigés. C'est ce que la parole fait. Pour tous ceux qui sont réunis ce matin, j'espère, moi le premier, que cette parole pourra nous enseigner encore ce matin. C'est la parole de Dieu, c'est son but. C'est pour cela que Dieu l'a préservé pendant tout ce temps-là. Qu'on puisse avoir une copie, qu'elle puisse être diffusée à travers le monde. Toute la gloire lui revient. Nous disons Alléluia au Seigneur pour cela ce matin. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et réjouis-toi. Voilà la déclaration d'un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Et devant ce bilan positif de la santé, de sa santé financière, il se dit, je n'ai plus de place pour serrer ma récolte. Que ferai-je? Je vais abattre mes greniers. Je bâtirai de plus grands. Et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Ce texte que nous venons de citer est tiré de cette parabole de notre Seigneur Jésus-Christ où un homme riche qui ne semblait pas se préoccuper de son âme, pensant qu'il vivrait longtemps pour jouir de sa fortune et en amasser encore plus. Cependant, le Seigneur nous dit dans cette parabole que peu de temps après son discours orgueilleux à son âme, et nous pouvons le lire dans Luc chapitre 12, versets 20 et 21, Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il ? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ton âme, mon âme, nous sera demandée, redemandée. Personne ne sait quand cela va arriver. Mais nous en sommes tous certains, un jour arrivera où notre âme nous sera redemandée et elle retournera vers son Créateur. Est-ce que ton âme est prête pour rencontrer son Créateur? Le contexte de cette parabole que nous avons lue, là, c'est qu'un homme dans la foule, Jésus-Christ enseignait, il y avait beaucoup de monde après lui, et dans cette foule-là, un jeune homme est sorti. Il est venu le voir parce qu'il avait un conflit. Le conflit dont il est question, c'était avec son frère. Son frère ne voulait pas partager l'héritage de la famille. Il avait droit à une partie de l'héritage, mais son frère ne voulait pas le partager. Et il voyait en Jésus-Christ un juge qui pourrait forcer son frère à partager la richesse dont il avait tellement besoin. Mais Jésus-Christ lui répondit dans le chapitre 12, verset 14 de Luc, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Et puis, après sa réponse à cet homme, il se tourne vers toute la foule, incluant cet homme qui est le plaignant, bien entendu. Cette foule qui l'écoute, ses disciples qui le suivent, Et il leur dit, cette fois-ci, c'est le pronom personnel qui est utilisé. Pas lui dit, comme s'il s'adressait au plénium. Là, il dit, il leur dit. C'est un enseignement qu'il veut donner à la foule. Il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Gardez-vous de l'avarice. Jésus-Christ avait vu dans le cœur de ce pléant-là sa misère. Il voulait avoir son bien qui lui revenait de droit. Mais Jésus-Christ a compris en tant que Seigneur que nous avons tous cette inclinaison vers les richesses, n'est-ce pas? Il s'adresse à nous tous de nous garder de toute avarice. L'avarice est définie comme étant un attachement excessif aux richesses. Est-ce que c'est moi ça? Je vous le garantis, c'est moi ça. J'ai une inclinaison envers cela. Je veux croire qu'il y a, je ne suis pas le seul dans la salle qui est comme ça. Mais c'est un péché. Dieu nous met en garde contre cela. Et Jésus-Christ continue pour nous dire que il y a d'autres enseignements que je veux vous renseigner, là, que je veux vous donner. Et il continue dans cette même veine-là. Il dit, si vous suivez le reste du texte de chapitre 12, il va utiliser le reste du texte pour faire un enseignement sur la dépendance sur Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez là. Un gars vient le voir pour qu'il fasse forcer son frère à lui donner un partage, son héritage. Il lui demande, est-ce que c'est moi qui ai le juge ici? Et puis il se tourne vers tout le monde et puis il leur fait un enseignement sur la dépendance sur Dieu. Si on dépend de Dieu, laisse faire l'héritage que ton frère ne veut pas te donner. Dieu va prendre soin de moi, n'est-ce pas? C'est le message qu'il veut donner à ce jeune homme-là. Fais confiance au Seigneur, il va répondre à tous vos besoins. Jésus-Christ, comme enseignant, il continuait dans toute la Galilée à faire ses enseignements. Et le texte que nous voulons vraiment considérer, c'était une introduction à notre texte ici, c'est le texte que nous trouvons dans le chapitre 16 de Luc. Je vous invite à tourner avec moi les vraies richesses. Luc chapitre 16, et nous allons lire les versets 19 à 31. C'est l'enseignement de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Il y avait un homme riche qui était vertu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert du cercle et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as des biens, que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare, il a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « Ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, et s'ils ne se laisseront pas persuader, quand même, quelqu'un des morts ressusciterait. C'est fort comme message, n'est-ce pas? C'est fort comme parabole. Jésus-Christ, intentionnellement, a utilisé cette parabole. Et je veux dire en passant que ce texte n'enseigne pas que les riches vont aller en enfer et que les pauvres vont aller en ciel. C'est pas vrai, ça. C'est pas l'enseignement qui est dans le texte ici, là. Je voudrais juste le dire en passant. C'est pas vrai que c'est cela. Mais on comprend Jésus-Christ. Il fait allusion à ce riche-là comme une parabole. Et nous croyons que ce riche-là, c'est un homme qui n'avait pas connu le Seigneur et que Lazare, c'est un homme qui a reçu le salut en Jésus-Christ. Alors, nous savons que les richesses, vous savez, ça peut nous rendre insensibles, vous savez, au besoin même d'avoir Dieu dans notre vie. Les richesses peuvent nous rendre insensibles aux besoins de notre communauté, aux besoins de nos frères et sœurs autour de nous. Ça peut créer de l'orgueil entre nous, l'autosuffisance. Il y a un danger. Je pense que c'est ce danger-là que le Seigneur voulait souligner dans cette parabole-là, le danger d'être riche. Et aussi, il voulait enseigner l'importance de préparer cette rencontre de notre âme avec son Créateur. C'est important qu'on soit prêt pour rencontrer notre Créateur. Mais cette préparation ne peut se faire que sur cette terre. Si on ne se préoccupe pas de Dieu maintenant, une seule chose qui nous est garantie, c'est l'éternité loin de Dieu. Et Jésus-Christ y est venu justement pour cela, pour nous empêcher de passer l'éternité loin de Dieu, qu'on soit réconciliés avec notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur. Il continue cet enseignement. Il dit clairement qu'il y a un enfer. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est un lieu de plaisir, on va s'amuser. Ce que je lis dans ce texte-là me fait peur d'aller en enfer. J'espère que ça peut vous réveiller l'esprit et de vraiment être reconnaissant pour l'assurance du salut, sachant qu'on ne passera pas l'éternité dans l'enfer. Mais pour le pauvre Lazare, sa situation de malheur, ça pourrait lui rendre amer contre Dieu, n'est-ce pas? Quand on vit dans une situation tellement déplorable, où on mange les miettes qui sortent de la table de quelqu'un pour subsister. Mais c'est intéressant de voir que le texte dit, il s'est rassasié. Il était content, d'après moi, de pouvoir trouver ces miettes-là qui tombaient de la table de ce riche-là. Mais que les chiens autour d'eux aussi étaient contents d'avoir Lazare par loin. Alors, on peut voir que nos malheurs peuvent aussi nous rendre plus disponibles à écouter la voix de Dieu. Et je peux en parler beaucoup. Les épreuves qui sont arrivées dans nos vies, Jacques est clair là-dessus. Et ils sont là pour un bien. Dieu ne nous aime pas moins quand on est pauvre ou ne nous aime pas plus quand on est riche parce que tout vient de lui. C'est lui qui est à la base de toutes nos richesses. Et si malheur, on appelle toute chose concourt, dit le texte, au bien de ceux qui aiment Dieu. Gardez-vous avec soin de l'avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. C'est l'application directe de ce que Dieu dit quand tu regardes que Jésus-Christ a utilisé précédemment dans l'autre parabole. Parce que cet homme-là était riche, ça ne lui a garanti rien. Il s'est ramassé en enfer pareil. Il avait beaucoup de biens, oui, mais il s'est ramassé en enfer. Et Dieu veut nous mettre en garde contre cela. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, ça ne fait aucune différence. Nous avons une chose, riche et moins riche, riche et pauvre. Nous avons une seule chose en commun. Nous avons Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous avons Jésus-Christ. Il veut que nous passions l'éternité dans les seins d'Abraham, riche et pauvre. C'est son désir. Mais comment passer l'éternité dans les seins d'Abraham? Comment est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver quand on fait un bilan spirituel, un bilan de notre santé spirituelle et de prendre la bonne décision pour corriger la situation. Vous savez, dans le milieu financier, à la fin des années, et comme dans les périodes comme celle-ci, Les gens font des bilans, voir qu'est-ce qu'ils ont fait comme revenu, etc. Et Joël pourrait nous en parler, et notre sœur Aline pourrait nous en parler aussi. C'est le temps des bilans. Et puis quand ils regardent le bilan, ils font des ajustements. S'il y avait des places où ils ont dépensé moins, ben ils vont laisser un peu de loose pour aller dépenser plus à d'autres places, etc. Ils prennent une décision pour corriger la situation que le bilan vient d'identifier. Alors, si on veut, en tant que chrétien ou en tant que personne, passer l'éternité dans les seins d'Abraham, ça nous prend un bilan de notre santé spirituelle et prendre la décision pour corriger la situation. Après la mort, ce sera trop tard. Après la mort, ce sera trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, nous dit la parole. Es-tu sauvé? Je ne peux pas répondre pour toi. Dans ton cœur, tu peux répondre. Si tu es sauvé, as-tu l'assurance de passer l'éternité dans les bras d'Abraham, dans les seins d'Abraham? C'est toi qui peux répondre à cela. Si vous n'êtes pas sauvé, je veux relire encore les déclarations et les demandes de notre mauvais riche, comme le texte nous le dit dans le verset 24. Tournez avec moi, regardez avec moi dans le verset 24, chapitre 16, verset 24. C'est le jeune homme riche, maintenant, qui parle. Il dit, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » L'enfer, c'est un lieu de tourment. La Bible nous en parle partout. Il nous dit que ce lieu-là, on ne veut pas aller là. Et Dieu a fait les provisions pour empêcher que nous allions là. Et si nous voulons y aller, la place est là, mais Dieu a une solution pour cela. Il souffre cruellement dans cette flamme et il demande que Dieu lui envoie Lazare. Pourquoi? Parce qu'il a fait un bilan de sa santé spirituelle un peu trop tard. Après la mort, c'est trop tard. Il demande, pour corriger la situation, d'envoyer Lazare pour parler, l'annoncer l'évangile, annoncer cette bonne nouvelle à ses frères. Mais Abraham lui dit, non, c'est trop tard, mon homme, c'est trop tard. Ils ont Moïse et les prophètes. Mais c'est quoi cette affaire-là? Moïse et les prophètes, c'est quoi? Vous savez, dans l'Ancien, avant que nous ayons le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, quand on faisait référence, Jésus-Christ aussi, si vous regardez dans le Nouveau Testament, quand il parle de l'Ancien Testament, il parle de Moïse et des prophètes. Parce que les prophètes et les livres, les Pentateuques, c'était... Ça faisait partie du rouleau, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament. Et quand Abraham lui dit qu'ils ont Moïse et les prophètes, il lui dit quoi? Allô? Oui, mais avant de les écouter, il dit, vous avez la parole. C'est ce qu'il est en train de leur dire, là. Fait que nous avons tout ce qu'il nous faut pour passer l'éternité avec Dieu. Nous avons la parole écrite, la parole inspirée de Dieu, la parole gardée par Dieu. Et nous ne pouvons pas le dire assez. Passons du temps dans cette parole-là. Passons du temps dans cette parole-là. Ils ont la parole. Ils ont Moïse et les prophètes qui l'écoutent. Voilà la solution. Nous avons la parole. Écoutons la parole. Écoutons Dieu nous parler à travers cette parole. Il continue pour dire, mais non, il faudrait envoyer Lazare. Si quelqu'un est ressuscité, il revient, il leur dit qu'est-ce qu'il y en a dans l'enfer. Peut-être qu'ils vont écouter. Abraham leur dit, quand bien même, Moïse ou quelqu'un d'autre ou un mort sera ressuscité, qu'est-ce qui arrive? Ils ne se laisseront pas persuader. Le cœur de l'homme, c'est comme ça, hein. Dieu connaît le cœur de l'homme et c'est vrai. On veut toujours une preuve de la présence de Dieu. Montrez-moi que Dieu existe. Tous ceux-là qui ne veulent pas croire en Dieu, ils vont avoir une preuve. Mais la Bible nous dit les preuves sont partout. Ils ne les voient pas. Et la parole nous redit ça ce matin. Cette parole-là, c'est la parole que Dieu a utilisée pour sauver toutes les âmes que vous avez vues, ceux-là qui ont fait l'étude avec moi dans l'acte des apôtres. Nous avons vu les apôtres utiliser tous les textes de l'Ancien Testament pour prêcher la bonne nouvelle. L'Évangile, c'est là-dedans. Et nous avons tout ce qu'il faut en 2015 pour passer l'éternité avec Dieu. C'est d'écouter la parole le message qui est véhiculé dans ce livre-là. Je vous invite à le faire souvent, souvent et souvent. Moïse, c'est l'Écriture. Moïse et les prophètes, c'est la parole de vérité, cette bonne parole qui nous a annoncé dans l'évangile de Christ, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cette parole-là va te sauver, parce que c'est la puissance de Dieu, mais ça prend ta foi. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Cette parole-là nous met devant un problème, le problème de l'humanité, le problème de l'homme. Et cette parole-là nous donne la solution. Il dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Le salaire du péché, c'est la mort. La solution à ce problème, c'est Jésus-Christ. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 23. Si vous n'êtes pas certain d'avoir la vie éternelle et passer l'éternité avec Dieu, je vous invite, Jésus vous invite à le faire ce matin, de ne pas quitter cette place. Parlez à quelqu'un. Vous ne voulez pas passer l'éternité dans ce lieu-là de tourment. Moi, je ne veux pas. C'est pour ça que j'ai saisi Jésus-Christ. Je vous invite, je vous encourage à le faire. C'est le meilleur move que tu pourrais faire. Jésus t'appelle à le recevoir comme sauveur. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. La parole encore est là. Car je suis humble et doux de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus-Christ t'appelle à le recevoir comme sauveur ce matin. Il t'appelle à avoir une relation avec lui ce matin. Il t'appelle parce qu'il veut te donner la présence de son Saint-Esprit en permanence en toi. Tu ne peux pas aller au ciel toi-même. Jésus-Christ, c'est la solution. Il est la porte. Si tu ne connais pas le Seigneur, ne remets pas à demain la connaissance de ce Sauveur. Accepte son invitation ce matin. Choisis de lui faire confiance. Et regarde-le transformer votre vie. Si comme moi, vous avez connu le Seigneur, vous savez qu'est-ce que c'est d'être appartenu au Seigneur, demeurons dans le Seigneur. Ça vaut la peine. Demeurons dans le Seigneur, demeurons en lui et suivons-le. Demeurez en lui en lisant sa parole, demeurez en lui en écoutant sa parole, demeurez en lui en croissant chaque jour dans la dépendance sur lui et demeurez en lui en comptant sur sa puissance pour lui être agréable. Amen.